BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Évidemment, on reviendra sur une partie seulement du discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. On reviendra sur l'aspect sanitaire, la souveraineté sanitaire, les médecins. Et puis on se posera la question, pourquoi 5 ministres en 2 ans? Mon invité, c'est Thierry Hulot. Il est président du LEM. Le LEM, c'est le syndicat de l'industrie pharmaceutique de tous les labos. Bonsoir Thierry Hulot.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous. Vous êtes accessoirement le président de Merck pour la France.
Tout à fait.
Ce matin, vous avez, au nom du LEM, de toute l'industrie, vous avez présenté votre plan stratégique où on revient toujours sur la question, le gouvernement ne fait pas forcément ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'argent sur la table. Mais donc, vous en demandez un petit peu plus. Je voudrais d'abord, est-ce que vous avez le sentiment que la santé est au cœur de la politique du Premier ministre? Et puis surtout, lorsque vous voyez qu'il y a 5 ministres en 2 ans, 7 ministres depuis l'arrivée de Emmanuel Macron, vous vous dites que la santé, on est quand même un peu le parent pauvre.
Je crois que le président de la République a été très clair sur la continuité de l'État. Et il y a un plan Ma Santé 2030 qui a été mis en place il y a maintenant quelques années. Ouais. Les entreprises du médicament sont totalement mobilisées. Nous, notre raison d'être...
Ouais, ça, c'est des éléments de langage. Ça.
Non, ce ne sont pas des éléments de langage. Ouais. Et il y a une chose qui est très importante, le rôle des entreprises du médicament, ouais. Ce qui fait qu'on est debout le matin... c'est de s'assurer quand un patient a besoin de son traitement, que ce soit un traitement innovant ou un traitement du quotidien, il ait accès.
Ouais.
Et vous serez d'accord avec moi que
le fait d'avoir autant de ministres en si peu de temps, donc rien ne peut bouger, rien ne peut avancer.
Alors, j'ai regardé un peu historiquement comment c'était. En 60 ans, il y a eu 50 ministres.
Ouais,
et on a avancé quand même la politique du médicament. Ouais. Donc, ne regardons pas tant l'instant présent. Ce qui est important, c'est comment on se met en ordre de marche pour servir les Français et qu'ils aient accès à leur traitement. Et pour ça, le LEM, non seulement est mobilisé, mais a présenté un plan d'action en 3 étapes ce matin.
On va revenir sur votre plan stratégique, vous inquiétez pas, Thierry Hulot. Mais regardez la pénurie de médicaments. Elle n'a jamais été, vous me dites, on fait tout pour que le matin, quand on se lève, les médecins, les malades puissent être soignés. On est d'accord, mais vous avez vu les difficultés d'approvisionnement de médicaments, que ce soit sur les anticancéreux, que ce soit sur les antibiotiques, voire sur le Doliprane à un moment. C'est quand même fou. Les chiffres sont sortis, là, selon l'Agence de sécurité du médicament. C'est 5000 signalements de rupture de stock.
Non.
C'est juste ça devant moi.
C'est 5000 signalements de tension. Qu'est-ce que c'est qu'une tension?
Je lis la phrase. De rupture de stock et risque de rupture, selon un bilan de l'Agence de sécurité du médicament publié vendredi. Vous voyez?
Alors, pour avoir lu le rapport en détail et la publication en détail, qu'est-ce qu'il y a eu? Maintenant, dès qu'il y a une tension d'approvisionnement, on doit le déclarer à l'agence pour pouvoir mettre ensemble, avec toutes les parties prenantes, un plan d'action. Il y a eu 5000 déclarations, c'est une augmentation, et je m'en réjouis, parce que ces 5000 déclarations ont permis de mettre des actions en place, et les véritables ruptures, il y en a eu encore trop, il y en a eu 1000, mais c'est moins que l'année d'avant. Donc, le fait de la transparence, que chaque laboratoire, en pleine responsabilité, quand il y a une tension, le déclare, permet d'éviter certaines ruptures.
Mais donc, c'est ce qui explique, c'est signalement plus que doublé, 128%.
Oui, et c'est bien, parce que ce que l'on prône au sein des entreprises du médicament, c'est la transparence. Parce que quand l'information est disponible, ensuite on peut se mettre autour de la table et travailler.
Mais c'est un problème de quoi? C'est ça en fait que je ne comprends pas très bien. Enfin, je ne suis pas la seule, les Français ne comprennent pas très bien.
Les pénuries, c'est un sujet extrêmement complexe.
Oui.
On avait d'ailleurs présenté tout un plan de lutte contre les pénuries au gouvernement au mois d'avril dernier. La première cause des pénuries, c'est la complexité de fabrication d'un médicament. Laissez-moi, si vous voulez, prendre un exemple qui vient de ma propre entreprise. Notre principal anticancéreux. Pour le fabriquer, il y a 100 ingrédients différents. Il y a 20 étapes de synthèse. Il y a 20 libérations de l'eau à chaque étape de synthèse. Il y a plus de 100 contrôles qualité. Donc, il suffit qu'il y ait une étape qui grippe et le process prend du retard. On a 10 sites industriels impliqués.
Mais pourquoi c'est de pire en pire? Parce que, bien sûr, mais la fabrication d'un médicament, je veux dire, ça a toujours été un peu la même. Évidemment, ça se sophisticatise. Enfin, bref, c'est pas très français ce que je dis. Ça se complique.
Alors, non seulement ça se complique, mais ça évolue tout le temps.
Oui.
Il y a 20 ans, on n'avait pas la même traçabilité qu'aujourd'hui. Et ce que l'on voit, c'est la demande mondiale en médicaments a augmenté plus rapidement que la construction d'usines. Donc oui, il y a des tensions. Tensions liées d'un côté à la complexité de fabrication, deux, à la complexité réglementaire. On entendait encore le Premier ministre appeler à un choc de simplification en se faisant écho des propos du président de la République. Il faut un choc de simplification dans la réglementation du médicament.
Oui.
Laissez-moi vous donner un exemple. Un produit est en tension en France. Il y a des stocks en Allemagne. On pourrait dire, nos amis allemands pourraient nous passer leurs stocks et le problème est réglé. Ah ben non, le conditionnement n'est pas le même, la notice est différente, ce n'est pas la même langue et donc ce n'est pas possible. Simplifions et pour les médicaments essentiels, ayons une présentation unique européenne avec un QR code à flasher pour aller à la notice dans notre langue. Donc, on a proposé tout un plan d'action très détaillé qui, malheureusement, pour l'instant, n'a pas été suffisamment repris par les autorités.
Et c'est pour ça que maintenant, vous avez représenté ce matin un plan stratégique.
Tout à fait. Et un plan stratégique dont le premier axe, la priorité numéro un, c'est garantir l'accès aux médicaments à nos concitoyens. Et ça, que ce soit des produits du quotidien qu'on va chercher à sa pharmacie. Et là, il faut régler le problème des pénuries. Et pas qu'au moment de la crise, il faut le prévenir, l'anticiper en amont, et ça prendra du temps. Et puis, l'accès, c'est aussi l'accès aux innovations. Il faut se mobiliser pour plus de recherches cliniques en France.
Oui, ça, on va revenir. Parce que ça, c'est un point très important, et là, vous avez insisté là-dessus, et il y a vraiment de quoi.
Par contre, vous m'interrogez sur notre plan stratégique. Donc, le premier point, c'est cette sécurité, cette souveraineté sanitaire. Ça ne se fera que si les entreprises ont un environnement économique porteur pour opérer.
Juste en un mot, là, j'aurais dû commencer par ça, Thierry Lot. Le LEM, c'est 106 000 salariés.
Tout à fait.
C'est plus qu'avant. Moins qu'avant, parce qu'on sait que c'est un long combat que vous avez mené, parce que l'image des laboratoires pharmaceutiques n'a pas toujours été très bonne, on peut dire ça. Elle s'est améliorée. Que vous, 100 000, c'était grosso modo la même chose il y a 5 ans ?
Non, c'est en progression constante. D'accord. Nous avons créé 12 000 emplois l'an dernier. Nous avons 9 000 apprentis. Et 90% de ces apprentis sont embauchés à l'arrivée.
D'accord.
Nous sommes, j'allais dire, relativement exemplaires en termes d'égalité homme-femme. Et si vous prenez le salaire brut de base, même les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes dans l'industrie pharmaceutique.
Une excellente nouvelle. 68 milliards d'euros, l'ensemble évidemment de tous les labos qui sont sur le sol français. 68 milliards, ça c'était les chiffres en 2022.
Oui.
Ça progresse ?
Ça progresse un petit peu. Dans ces 68 milliards, il y en a à peu près 37 milliards à l'export.
D'accord.
Car, chose qui est mal connue, on vient de parler des pénuries, nous avons 270 entreprises qui produisent des médicaments sur le territoire national, qui les exportent. Jusqu'à l'an dernier, ça contribuait fortement à la balance commerciale de la France, de manière positive, de plusieurs milliards d'euros. Malheureusement, on est en train de se déclasser parce qu'on a tendance à fabriquer en France des molécules anciennes à bas prix et on importe les molécules innovantes, les dernières immunothérapies.
Oui.
Et donc ça va petit à petit déséquilibrer la balance commerciale.
Oui, puis en plus, c'est ce que vous disiez aussi dans votre plan stratégique, c'est qu'il faut, je crois, 160 jours pour mettre au point un médicament et ailleurs, c'est 120 jours.
Ah non, ça c'est pour un essai clinique.
Ça c'est pour les essais cliniques, pardon. C'est pour les essais cliniques. Non, mais parce que je suis toujours dans la débureaucratisation, parce que le D, c'est le mot du jour, parce que Gabriel Attal n'a pas arrêté de désmicardisation, dès ceci, dès cela. On va rester un instant sur la concrétisation, ce que vous essayez de faire, vous, les laboratoires en France, sur le territoire français. Le gouvernement a appelé, a fait un New Deal, on s'en souvient, une nouvelle politique du médicament. Quelle suite vous attendez maintenant, alors de Gabriel Attal, je sais pas, du prochain ministre de la Santé ?
Quelque chose d'extrêmement simple. C'est Elisabeth Borne qui avait lancé cette mission de réflexion sur la régulation et le financement du médicament.
Oui.
On célèbre aujourd'hui presque l'anniversaire du démarrage de cette mission. Cette mission, 6 mois après, au mois d'août exactement, elle a rendu ses conclusions. Conclusions autour de 7 ou 8 grands axes et plus de 60 mesures. Puis il n'y a pas eu de suite.
Oui, c'est dans un très beau placard à Matignon, c'est ça ?
Soyons un peu optimistes en ce début d'année. Il n'y a pas eu de suite. J'espère que le gouvernement qui finit de se mettre en place prendra le relais, car il y a urgence à agir. Dans ces 60 propositions, le LEM a dit que nous serions au rendez-vous de ce New Deal, que nous voulons contribuer pour faire avancer l'accès des médicaments pour nos concitoyens. C'est pourquoi ce matin, j'ai présenté en conférence de presse nos 3 grands axes, comme je le disais, souveraineté sanitaire, soutenabilité économique des entreprises, et puis aussi responsabilité sociétale. Car aujourd'hui, une entreprise du médicament ne peut pas agir, évoluer, sans être totalement éco-responsable dans un programme de décarbonation, et bien entendu en accélérant la transition numérique.
Oui.
Ce sont ces 3 axes que nous allons porter auprès du gouvernement qui vient d'être nommé ou qui est en cours de finalisation de nomination, avec des propositions sur ça, chacun de ces axes très concrètes que nous allons faire.
Mais sur le plan de la souveraineté sanitaire, qu'est-ce que vous allez là ? Vous allez rencontrer le prochain ministre ou la prochaine ministre, parce que ça, on dit que ça pourrait être une femme qu'on connaît bien ici.
Qui il y a déjà une ministre du Travail et de la Santé qui est nommée,
voilà,
que nous avons demandé à rencontrer.
Et vous ne l'avez toujours pas rencontrée ?
Elle vient d'être nommée.
D'accord. Non, mais en même temps, c'est vous qui vous pesez lourd, hein, parce que vous êtes l'ensemble de toute l'industrie pharmaceutique, donc elle aurait pu vous rencontrer.
Ça viendra.
Ça viendra, bon. Est-ce que sur cette pénurie de médicaments, dans votre plan stratégique, qu'est-ce que vous avez proposé concrètement ?
Donc, nous avons un plan pour lutter contre les pénuries qui a trois volets. Qu'est-ce que l'on fait quand la pénurie est là, quand on est en situation de crise ? Et là, il faut fluidifier l'information.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'accord.
Oui. Okay. Il faut s'assurer qu'un médecin, sur son écran, il y a un pop-up qui dit « Attention, vous prescrivez ce traitement, il n'est pas disponible. Ouais. » Par contre, il y a une alternative. Il faut un meilleur partage de l'information entre tous ceux qui détiennent des stocks.
Ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je pensais presque plutôt aux médecins. Comme vous dites, quand il y a le pop-up qui doit sauter sur son ordinateur, j'entendais quelqu'un ce matin qui disait « Mais non, mais à la limite, il faut qu'ils disent « Là, il n'y en a plus de tel antibiotique, donc on va prendre, je vais vous donner un autre antibiotique. » Vous voyez, c'est qu'il y ait plus de relations, en fait, parce que c'est eux qui font les ordonnances.
C'est rendre l'information transparente à tous les acteurs de la chaîne. Pour ça, il faut connecter tous les systèmes. Le LEM a mis en place, il y a quelques années, un système qui s'appelle TrackStock, qui permet, entre les industriels, de savoir le niveau des stocks. On le partage avec l'agence du médicament, la NSM. On propose d'aider à le rendre également connecté au système des réseaux de distribution pour avoir une meilleure visibilité et puis de s'assurer que le pharmacien d'officine ait aussi l'information en temps réel, ce qui prendra un peu de temps. Et à terme, il faudra que le médecin prescripteur l'ait. Ça permettra de gérer la crise quand il y a une pénurie. Mais le gros du travail, et ça prendra des années, c'est comment éviter les pénuries d'arrivée. Et là aussi, nous avons fait, dès le mois d'avril dernier, des propositions au gouvernement.
Oui, c'est ça. Attendez, en fait, vous avez votre feuille de route. Le problème, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas de répondant en face, quoi.
Mais
ça viendra, soyons optimistes.
Nous restons mobilisés parce qu'il faut tordre le cou à ce problème.
Oui. Mais en même temps, il y a un autre problème, puisqu'on parlait de pénurie. Il y a eu un gros problème, on s'en souvient, sur le Doliprane. On parle de souveraineté sanitaire, et puis Sanofi, qui est censé être un de nos grands labos français, vend sa branche grand public avec le Doliprane, fin 2024. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ?
Alors, vous comprendrez que je ne commente pas sur la stratégie d'une entreprise,
non, mais
c'est
là,
pas
c'est
mon
énorme,
rôle.
Vous voyez, je veux dire, c'est pas n'importe quoi.
Ça ne met pas en cause ou en risque la souveraineté sanitaire sur cette molécule-là.
Pourquoi ?
Celui qui reprendra l'entreprise continuera d'assurer la production et on n'a jamais produit autant de Doliprane qu'en ce moment. Les équipes de Sanofi pourront vous donner les chiffres exacts. Et il n'y a d'ailleurs pas d'état de rupture à l'instant où je vous parle.
Oui, mais il y en a eu. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que justement, c'était un des médicaments un peu emblématiques de cette question de pénurie de médicaments. Mais donc, ça veut dire, et ça fera le lien aussi, vous parliez d'attractivité du territoire pour des laboratoires comme Merck, comme d'autres de l'industrie pharmaceutique. Si Sanofi vend sa plus grande branche grand public, enfin sa grande branche publique, ça veut dire que la France n'est plus attractive, n'est plus assez attractive.
Oui. Quand je vous disais il y a un instant, notre deuxième axe prioritaire, c'est la soutenabilité économique. Mm-hmm. Ça adresse exactement ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on voit en France ? On va publier dans quelques semaines une étude sur la fiscalité de l'industrie pharmaceutique française. C'est le record européen. Les entreprises pharmaceutiques en France qui font des profits sont en moyenne taxées à 60%. C'est bien au-delà. Une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés, il y a 7 taxes sectorielles qui s'appliquent à cette industrie, dont la fameuse clause de sauvegarde. Alors, c'est un jargon extrêmement technique pour les auditeurs. En gros, si le budget médicaments voté par le Parlement est dépassé, nous en rendons 70%. Et l'idée est que l'an prochain, on en rendra 90%. Donc, cet impôt qui n'existait pas il y a 10 ans représente 1,6 milliard à l'heure actuelle. Alors, mais ça étouffe les entreprises, ça n'incite pas à faire de la recherche en France, ça n'incite pas à aller construire une usine en France. Et si vous êtes, comme la moitié des adhérents des entreprises du médicament, une PME qui fournit 36% des médicaments essentiels, dont le coût unitaire est de 25 centimes, elle est où votre marge de manœuvre pour aller décarboner, pour mettre une chaîne de production plus rapide, plus puissante, pour lutter contre les pénuries ? Il faut recapitaliser pour permettre à ces PME, à ces entreprises qui assurent nos traitements du quotidien, de vivre.
Oui. Tiens, justement, si vous parlez de PME, de laboratoires indépendants, Thierry Hulot, souvent le président du LEM, c'est un président d'une filiale souvent d'un grand laboratoire comme vous l'étiez maire, votre prédécesseur, je ne sais plus dans lequel c'était, mais enfin c'était aussi un grand groupe. Il y a combien de laboratoires encore indépendants en France, des PME comme vous dites?
Alors,
il y en a plus beaucoup parce que là il y en a encore qui viennent de se vendre.
Il y a au sein des entreprises du médicament un peu plus de 270 laboratoires. Mmh. La moitié sont des PME et je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je dirais plus d'un tiers sont encore indépendants. Alors, ce sont des petits laboratoires, oui, mais qui sont indispensables. Ils fabriquent 70% des analgésiques qu'on utilise tous les jours.
Là, l'impact, parce que ça, c'est lors de sa conférence de presse qu'a tenue cette fois-ci le président de la République. Il a parlé de, il a beaucoup insisté et justifié le fait de doubler la franchise de médicaments qui passe de 50 centimes à 1 euro. Quel impact économique ça a pour vous? Est-ce que vous pensez que ça aura un impact pour les Français? Donc ils vont peut-être moins consommer de médicaments. Est-ce que ça a un impact économique pour vous?
C'est pas l'impact économique qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je suis pharmacien de formation, c'est qu'un patient, il prenne le bon médicament quand il en a besoin, et quand il n'en a pas besoin, il ne le prenne pas. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? En moyenne, un Français achète 40 boîtes de médicaments par an.
Oui.
Et deux sont jetées.
Ah oui,
ces deux boîtes-là, elles seraient restées sur les étagères d'une pharmacie, ben, ça aurait évité des pénuries pour d'autres de nos concitoyens. Donc, il faut tous qu'on s'en responsabilise un peu plus. Et c'est vrai qu'on a toujours cet adage, ah oui, mais la santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et la responsabilité de chacun d'entre nous en tant que citoyen à une juste consommation aidera, notamment dans les pénuries, évitera les erreurs médicamenteuses, permettra à tous d'avoir accès au traitement.
Mais est-ce que vous êtes favorable à ce moment-là à ce qui se passe notamment en Grande-Bretagne, mais pas que, c'est-à-dire c'est qu'on vend un médicament à l'unité, c'est-à-dire que par exemple, je témoigne, j'ai une infection pulmonaire, on me change tout le temps de médicaments, je me retrouve avec un énorme sac de médicaments qui ne sert plus à rien, alors qu'ils sont tout neufs. Si on m'avait donné juste pour les 5 jours, les 10 jours d'antibiotiques, ben, voilà, ça aurait été formidable. Mais on dit que les laboratoires sont opposés en France.
Alors, c'est pas une question d'opposition, c'est que c'est l'exemple type de la fausse bonne idée.
D'accord.
Qu'est-ce qui va se passer? Le pharmacien va passer un temps fou à sortir le comprimé de sa cupule en plastique pour le mettre dans un sachet en papier. Imaginons qu'on découvre après qu'il y ait eu un problème de qualité et qu'il faille faire un rappel de l'eau. Mmh. Il n'y a plus de traçabilité. Donc on perd toute la sécurité sanitaire qu'on a mis en place. Ça ne fera aucune économie à la sécurité sociale. Ce qu'il faut par contre, et là nous sommes totalement mobilisés, c'est s'assurer que dans une boîte de médicaments, il y ait le nombre de comprimés nécessaires pour un traitement standard, donc a priori pour les antibiotiques 7 jours, et qu'on vous donne le juste nombre de boîtes.
Oui, oui, c'est ça qui serait formidable. En conclusion, Thierry Hulot, s'il y avait une mesure dans votre plan stratégique qui vous paraît essentielle et que vous allez mettre en avant devant votre futur ministre de la Santé ou votre ministre responsable que de la Santé et pas que du travail?
Ben nous, entreprise du médicament, nous sommes totalement mobilisés, mais nous avons besoin d'un gouvernement, d'une administration qui pilote l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, ouais, de manière à faire les arbitrages nécessaires. Il y a urgence à ce pilotage, il y a urgence à mettre en musique les propositions du fameux New Deal de la mission Borne. Nous sommes mobilisés, nous serons en rendez-vous.
C'est ça qu'il faut, vous attendez des réponses en fait. Voilà.
Non, ce n'est pas des réponses, c'est de se mettre au travail et dans l'action autour de trois grands axes.
Oui.
Souveraineté sanitaire, soutenabilité économique, responsabilité sociétale. Et sur chacun de ces axes, nous avons des propositions très concrètes. Et je sais que la stratégie c'est bien, ce qui compte c'est le résultat. Et nous voulons devenir très transparente, partager les résultats. Nous mettons en place un indicateur des progrès que nous ferons, qui sera en open source, en open data, disponible sous 6 mois. Je serai heureux d'en venir vous le présenter.
Absolument.